présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée. Il ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Après la guerre, nous pourrons de nouveau être réunis. Moi aussi, il lui dit. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. Tu étais près de moi, à côté de moi, et j'ai senti la douceur de ta joue sur ma joue. Ta joue était contre la mienne. Et tu me demandais si ça allait. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Cliff est heureux et ému de ce qu'a dit Didier. Je me suis réveillé. Un froid glacial était en moi. Et les chouchous me disaient que tu allais mourir. Un cafard terrible. Me prie. Puis, je me suis remis et je me suis dit que c'était une sensation et que j'allais te retrouver. Et je lui dis, oui, je suis là et bien vivant. Mais il faut que bientôt enfin, c'est la vie. Il se dit que bientôt le froid de la mort viendra sur lui. Ça lui fait mal. Pas pour lui, Et pour Didier, Didier Luman, je peux rester le temps que je suis à Paris. Qu'elle lui dit, oui, bien sûr. Tu sais qu'il y a une soirée en ton honneur. Didier lui dit, quelle aurore! Je croyais qu'on m'amenait simplement chez Framblanc dans son bureau. Écouter 5 minutes ce qu'il avait à me dire et puis c'est tout. Je lui dis, non, il veut faire ça en grand, avec tout le personnel, les gens du groupe, etc. Guy lui dit, je ne veux pas de discours. Et toi, tu resteras près de moi. Guy lui dit, je ne crois pas qu'il y ait de discours, mais je te promets de rester près de toi. Bon, je suis plus rassuré. Cliff lui dit. Et puis, tu peux te reposer, tu as le temps, c'est à 21h30. Il lui demande. Je m'habille comment? Cliff lui dit. En uniforme, mon vieux. Ça t'ira très bien. Tout à fait héros. Ils vont aimer ça. Il lui dit, les héros de salon. Je lui dis, oui, mais sauf moi, j'aimerais mieux te retrouver comme tu étais. Tu sais, tu étais toujours mon seul ami. Didier ému lui dit, merci. Je croyais que tu allais m'oublier avec tout ce qui t'est arrivé. Et puis, les filles, lui dit, c'est pas la même chose. Et toi, Didier rougé lui dit, moi, rien. J'ai eu juste une histoire rigolote, sans importance, avec Jean. Cliff rit et lui dit, aussi, c'est le repos du guerrier, cette femme. Didier lui dit, tu sais, je me sentais vraiment bien. Et puis, mais ça n'a pas été très loin. Avec toi, c'est pas pareil. Tu me sens bien. Mieux que si j'étais près d'un frère. Il lui dit, moi aussi. Il reste un moment sans se parler. Puis Cliff se penche, met les mains sur les cheveux de Didier et lui dit, il faut te préparer. Et tu vas te reposer un peu. Viens, je vais te montrer la salle de bain. Entre, c'est ici. Et Didier prend sa douche. Puis, il est allé s'allonger sur le lit de Cliff en caleçon. Cliff s'est allongé près de lui. Il parle de ce qui leur est arrivé et de souvenirs lointains. Puis, l'heure est venue de se préparer pour ne pas jouer des goinfres. Ils ont mangé un petit quelque chose et sont partis. Didier a gardé son costume militaire. Costume de Les soldats de brousse sous leur crêpe. Il ressemble plus à un scout qu'à un soldat. Elle est détricotable et sentent le ventre qui les décoiffe. Ils entendent aussi le bruit au loin des émeutiers. Les rues sont à peine éclairées. On voit surtout les phares, des chantiers, des grues et la lumière de l'immeuble le plus beau du monde, le siège tremblant. Et bien entendu, les flammes des incendies. Didier lui dit, en Afrique, on arrête de se battre la nuit. Il dit, bien ici, c'est le contraire. Les rues sont désertes, pas de circulation. Les gens ont peur de sortir le soir. Les émeutes se trouvent dans des rues populaires. Ils arrivent boulevard Velasquez. Là, le boulevard, le parc Monceau est illuminé à cause de la soirée organisée par les Francs Blancs. Il y a déjà du monde sur le boulevard, des voitures en stationnement, beaucoup de voitures luxe et même 75 Rolls. Des policiers, des hommes en noir gardent le boulevard et le parc Monceau. Des hommes, des femmes en tenue de soirée sortent de voiture et se dirigent vers l'hôtel de Franc Blanc qui se trouve près du parc Monceau. Cliff a réussi à se garer sa voiture. Ils sortent de voiture. Didier lui dit, tout ce monde, ça ne fait pas. Nous disons bonjour et on s'en va. Il lui dit, c'est impossible, ils sont venus voir le héros. Qui est gêné lui dit, tu restes près de moi alors. Il lui dit, te fais pas de soucis, j'ai l'habitude de ce genre de soirée, ce n'est rien du tout. Allez, viens. Et Didier suit Cliff. Lorsqu'il croise des gens dans la rue, les gens les regardent et parlent à voix basse. Enfin, ils arrivent devant l'entrée de l'hôtel. Il y a des gardes qui passent avec des appareils pour voir s'ils n'ont pas des armes, ou on les fouille aussi. Une fois que c'est fait, personne ne dit rien, parce que tout le monde trouve naturel ce genre de choses. Donc, une fois que l'on a fait le contrôle de la fouille, on passe devant un homme qui est assis à une table avec un ordinateur. Il regarde les cartes et demande le pouce pour voir si la personne est bien celle qui a été invitée. Cliff et Didier peuvent entrer. L'hôtel est comme d'habitude tout illuminé. Il y a la musique, les gardes républicains en habit sur les marches des escaliers, garde à vue avec l'épée en l'air. Cliff et Didier suivent la foule. Ils voient monsieur et madame Franc Blanc qui sont près du salon pour saluer leurs invités. Monsieur Franc Blanc, qui ne fait pas attention pour saluer et tendre sa main molle, tout d'un coup est surpris. Ses yeux s'étaient habitués à voir des hommes en tenue noire. Et smoking, et là, il voit un presque enfant habillé en couleur crème, de façon bizarre. se sent pris de court. Ses gestes se sont arrêtés. Il est comme une machine qui... Il était comme une machine qui disait merci d'être venu à des ombres. Et là, la machine tombe sur quelque chose qu'elle ne reconnaît pas. Elle se bloque. Madame Franblanc, qui attend qu'il lui passe la main suivante, regarde de son côté. Elle le voit. Éberluée, paralysée. Elle reconnaît Cliff et pour remettre en marche la machine, vous êtes avec ce jeune homme, il lui dit. Vous, madame, il est le roi de la fête, si j'ose dire. C'est Didier Dupin, le jeune héros. Madame Franblanc. Oh oui, bien sûr. Où avais-je la tête? Elle voit que son mari reste toujours bloqué. Et son blocage bloque la chaîne des invités qui ne peuvent avancer. Elle lui tapote la main et lui dit « Mon cher, ce jeune homme est celui que nous attendons, le jeune héros, Didier Dupin. » Le Franblanc sort de sa paralysie. « Oui, bien sûr, enchanté jeune homme. » Madame Franblanc dit à Didier lui pardonner, c'est le surmenage. Didier rit et dit à Cliff, ça m'est tout à fait, ça va tout à fait de ne pas être reconnu. Ça va parfaitement bien. Et ils se mélangent à la foule. Le pauvre Didier, comme il est habillé, ne peut ne pas être aperçu. On demande qui il est et l'on sait. Alors on va vers lui, on le félicite, on lui demande des autographes. Mademoiselle Lapin est là, avec sa femme à tête de cheval. Sa femme à tête de cheval dit « Vous savez, Cliff, laissez-moi ce petit soldat !» Mademoiselle Lapin dit « Mais, Jacques, je ne sais pas où il est, la hémorroïde, il doit être au petit coin !» Tout le monde prend Didier pour un héros. Il est tellement entouré que la dame à tête de cheval ne peut l'approcher. Cliff reste près de lui. Toutes les jeunes filles veulent être près d'eux. Cliff est là et dit à tout le monde, devant le pauvre Didier, il se bat pour défendre le monde occidental. Oui. Cliff dit, oui, mon ami se bat pour nous. Je fis blonde dans les 20 ans, robe longue bleue, dit, pour l'ennuyer. Il se bat à votre place, à la place des planqués comme vous. Il dit, vous avez raison. Elle lui demande, et quand irez-vous vous battre? Cliff lui répond, quand ce sera vraiment nécessaire, on a besoin de moi ici. Didier est gêné des attaques que l'on fait contre son ami. Il dit, sans les larmes, on ne peut pas se battre. Et puis, vous avez besoin d'hommes ici aussi, avec tous les attentats qu'il y a en France. Tous les hommes valides sont partis. Comment feriez-vous pour sortir cette soirée? N'a lieu qu'avec l'homme, avec les hommes qui nous protègent. Elle a pas dit. Il a raison. Et puis Cliff, on en a tout besoin au siège. Didier lui dit, Cliff fait un travail ingrat et sans prestige, mais c'est plus indispensable que le mien. Moi, je ne fais que nous battre. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Judith dit, ils sont tous les deux délicieux. Elle leur dit, ne faites pas attention à ces idiots qui s'évanouiraient à la vue de la première égratignure. Et lui sourit. La soirée continue. On présente Cliff. À Gilbert, Julien et Nathalie qui présentent Didier. Monsieur Fremblant et Madame qui ont entendu ce qui a été dit passent devant les invités en disant du bien de Didier et de Cliff. C'est un garçon remarquable. On présente Didier à Harold qui est tout retourné. Il dit, oh mon Dieu, j'ai envie de m'engager dans votre armée. Voyons comme ça, comme les soldats sont bien habillés. Cliff rit. Didier est confus, ne sait que dire. Didier lui dit un mot à l'oreille et s'éloigne. Judith va vers Harold et lui dit, au lieu de draguer, feriez mieux c'est de travailler. Cliff a été attaqué et traité de plouc. Vous savez qu'on c'est peut-être un élu, un autre élu. Alors il ne faut pas qu'il soit traité de cette sorte. Alors, allez dans la foule et dites du bien de Cliff. Harold lui dit, bien sûr, je ne ferai que ça. Et la soirée continue. On oublie ce qu'a dit la fille sur Cliff. Les Fremblants, Judith et Harold surveillent et disent du bien de lui. Et la soirée se continue. On a oublié cet incident. Cliff et Didier font danser les jeunes filles qui se les disputent. Cliff et Didier sont partis à 4 heures, épuisés, mécontents. Ils se sont bien amusés, surtout en écoutant la lapin les draguer. Une fois chez Cliff, ils se sont couchés dans le même lit, épuisés. Le lendemain matin, Cliff se réveille et voit Didier plaqué contre lui, endormi, la tête sur son épaule. Il se dit, il a bien mérité quelques heures de calme, et lui aussi. Didier reste quelques jours chez Cliff. Cliff s'attache à lui de plus en plus. Chacun sait ce que pense l'autre, sans se parler. Leurs regards se disent tout. Puis, durant son séjour, Cliff lui fait visiter Paris, mais il préfère c'est rester tous les deux dans l'appartement. Ils se sentent en sécurité. Et puis personne ne les dérange. Non, personne ne les dérange. Matin, en prenant leur petit déjeuner à la cuisine, Didier lui dit, mon congé est déjà fini, il faut que je reparte. Cliff est triste, lui demande, Tu n'aimerais pas mieux rester ici ? Dieu lui dit, ce n'est pas possible, mais bien entendu que j'aimerais rester avec toi. Dieu lui dit, je vais faire en sorte à ce que tu ne partes pas. Oui, je vais faire en sorte à ce que tu ne partes pas. Le soir, il va voir Judith. Elle le reçoit au salon. Après l'avoir fait asseoir, il lui dit « J'aimerais, c'est que Didier ne retourne pas là-bas. Ne pourrais-tu pas faire en sorte à ce qu'il reste ici, près de moi ?» Elle lui demande « Et que ferait-il » Il lui dit « Il serait avec moi, il m'aiderait dans mon travail. » Nous avons toujours été ensemble, et ceci depuis le berceau. Je me suis rendu compte, durant son séjour, lorsqu'il était près de moi, que j'étais très attaché à lui. Judith réfléchit et lui dit, je vais voir. Le lendemain, elle va voir le man noir dans sa maison au fond de la cour. Il la reçoit à son bureau. Elle lui dit que Cliff aimerait que Didier restât avec lui. Il lui dit « Non ». Elle lui demande « J'ai réfléchi et je me suis dit que si Didier était près de Cliff, ça lui donnerait un certain équilibre. Il empêcherait de faire des bêtises. Et il aurait, pour ainsi dire, une vie plus stable. Et puis, ça l'empêcherait peut-être d'aller courir et d'avoir des relations avec des jeunes filles, trop fortes avec des jeunes filles. C'est à nous de lui trouver une fille. Moi, je trouve que ce serait salutaire et pour Didier aussi, il retrouverait une vie normale. Cliff aurait Didier près de lui, ce serait bien aussi pour Cliff, pour tous les deux. L'homme lui dit, je comprends votre point de vue, mais c'est impossible. Didier a une image à préserver. C'est celle d'un héros militaire. On a besoin de lui pour le moral des troupes et pour la propagande de la guerre. Judith le dit à Cliff, il faut qu'il reste. Il représente le héros du monde occidental. Cliff est triste, il dit à Didier. Didier lui dit, tant pis, je partirai donc. Peut-être que la guerre ne va pas durer bien longtemps. Ils sont tristes tous les deux, mais résignés. Deux jours plus tard, Cliff a amené Didier à la gare de Lyon. Ils s'embrassent. Protège-toi bien. Oui. Ne fais pas de soucis. Donne-moi tes nouvelles. Oui. Et il entre dans son compartiment. Il va aller voir sa mère pour lui dire au revoir. Il se penche pour dire au revoir à Cliff de la fenêtre. Il lui dit, je vais dire au revoir à ma mère avant de partir pour l'Afrique. Malgré lui, il est heureux, heureux de retourner se battre. Il retrouve la guerre. Rien n'a changé depuis son départ.
Repliez-vous!
Beaulieu prend le train parce qu'il a été convoqué pour affaire chez Franblanc. Il entre dans un compartiment vide. S'assoit dans son compartiment. Et son compartiment est envahi par une dizaine de personnes qui s'assoient à côté de lui, en face de lui. Et comme ils sont trop nombreux, un homme reste debout devant la porte. Beaulieu se sent gêné. Ces gens semblent bizarres. Ils sont sales, mal habillés, le regard étrange, mauvais, d'un certain âge, les cheveux gris, en broussailles. Il y a 6 hommes et 4 femmes. 2 hommes se sont assis à côté de lui et 2 en face de lui. Un homme debout devant la porte, 2 femmes en face de lui et 1 près de la fenêtre face à lui. On dirait des clochards habillés de manteaux en loques. Beaulieu ne sait comment se comporter à côté d'eux. Et puis, il le regarde d'une drôle de façon, avec un sourire étrange. Le train se met en route. Se dit qu'ils ont dû se tromper de compartiment, de classe. Contre l'or, un gros homme à cheveux noirs et moustache entre dans le compartiment. Il demande « billet s'il vous plaît ». Tous leur présentent leur billet. Le contrôleur poinçonne sans rien dire et s'en retourne. Au lieu de dire « ils ont donc pris un billet de première classe, c'est un comble ça ». Durant tout le trajet, il n'ose pas bouger. Et il ne sait pas où poser son regard. Il se regarde de façon étrange. Il n'a pas osé aller au wagon-restaurant ni aux toilettes. Le trajet lui semble interminable. Il a envie de leur demander pourquoi ils le regardent comme ça, mais ne veut pas ouvrir la bouche. Lui, Beaulieu, est paralysé de timidité parce qu'il est entouré de gens qui ne sont pas de son monde. Ça le fait enrager intérieurement. Le trajet lui paraît de plus en plus interminable. Il se dit que la prochaine fois, il prendrait l'avion. Après des heures et des heures de voyage, 8 heures, le train roule à petite vitesse par manque de charbon et il fait omnibus. Le train arrive, gare de Lyon. Il s'arrête à la gare. Il se lève, tous se lèvent. Et tous sortent du compartiment. Il reste près de Beaulieu, au coude à coude. Descendre du train, il continue à l'entourer. Il y a du monde à la gare. Et on les entoure. Beaulieu ne peut pas se déplacer. Il se déplace que difficilement. Il ne peut pas sortir de l'emprise de ces gens. Enfin, la sortie de la gare. Un peu d'air frais. Il est toujours entouré. On le pousse, on le bouscule. Et ces gens ont des visages plutôt, des regards tellement bizarres qu'ils n'osent pas leur dire de s'en aller plus loin. Il est bousculé vers les taxis. Une portière arrière d'un taxi est ouverte. On le pousse et il se trouve assis dans le taxi. La portière se referme. Beaulieu voit le chauffeur, un homme gros, à cheveux et moustaches blanches. Il porte une casquette, voire un blouson gris. Beaulieu se dit que malgré tout, il devrait prendre un taxi. Il dit au chauffeur, « Hôtel Franc-Blanc, place de l'Étoile, mon brave. » Le taxi s'est mis en route et file dans Paris. C'est une fin d'après-midi. Beaulieu se détend un peu. Ouf ! Il en a fini avec ce voyage et ces gens désagréables qui ne sont pas de mon monde. Manque d'éducation. Ça se voyait. La voiture file, file dans Paris. Beaulieu regarde le paysage. Tout à coup, il se rend compte qu'elle file plus loin que la place de l'Étoile. Il demande au chauffeur, où allez-vous? Je vous ai dit, place de l'Étoile. Le chauffeur ne dit rien. Beaulieu s'énerve. Parce qu'il voit qu'il quitte Paris. Il dit, laissez-moi descendre, je vous donne l'ordre de me laisser descendre. Il touche la portière et voit qu'elle est verrouillée, panique et demande, qu'en voulez-vous? Ma carte. Le chauffeur rit et lui dit, non, nous voulons tout. Il rit, Beaulieu panique, a peur et se dit que c'est un fou comme les autres. La voiture file hors de Paris. Il fait nuit. Beaulieu se sent perdu, mais a l'impression que la voiture est devenue pour lui un corbillard. La voiture s'est arrêtée en pleine campagne devant l'entrée d'une propriété. Le portail s'est ouvert. La voiture suit une allée dans un parc qui a des arbres et des haies. Au fond du parc, il y a une demeure. C'est mal éclairé. La maison semble une maison assez grande, grise et belle. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée de la maison. Il y a deux hommes habillés en robe de chambre, grand fort, cheveux châtains, des hommes dans les 30 ans. Ils ouvrent la portière arrière de la voiture et disent à Beaulieu: « Monsieur, vous êtes arrivé. » Beaulieu, furieux, lui demande: « Oh, tu dis, je suis madame, monsieur. » Beaulieu se sent rassuré. Enfin, des gens de son monde, des domestiques, il connaît. Et une dame, il connaît aussi. Et dans un décor, qu'il connaît aussi. Il est soulagé, reprend sa prestance et se dit qu'il va savoir ce que c'est que cette farce. Sort de voiture et dit: « Je vous suis, mon brave. » Il suit le domestique qui l'amène à l'intérieur. La maison semble sombre. On le fait monter à l'étage, très sombre. Soit à l'étage, on le fait rentrer dans une pièce qui semble être un salon fait de briques et de braques. C'est très sombre. Il y a assis dans un fauteuil une vieille femme à cheveux blancs, le regard malicieux. Elle porte une robe du soir grise avec les petites étoiles argentées dessus. Elle a une canne à la main. Devant elle se trouve ce qu'il faut pour prendre le thé. Elle dit: « Bonjour, monsieur Beaulieu. » Il lui dit: « Bonjour, madame, qui êtes-vous ? » Elle lui dit: « Venez vous asseoir. Je vous ai attendu pour le thé. Je sais que c'est un peu tard, mais votre train a pris du retard. » Beaulieu va s'asseoir dans un fauteuil en face de la femme. Elle demande: « Sucre, lait, citron, un doigt de lait, merci. » Et elle fait le service. Merci. Se sert, elle aussi. Moi, je le prends pur. Avoir bu une gorgée, elle lui dit: « Il est excellent, n'est-ce pas ?» Monsieur Beaulieu lui dit: « Oui, très bien. » Elle lui dit: « C'est l'ambassadeur d'Angleterre qui me le fournit. » « Alors, monsieur Beaulieu, avez-vous fait un bon voyage ?»«
Assez éprouvant, madame. »
Elle lui dit, « Les voyages sont plus ce qu'ils étaient, Lars. De mon temps, c'était plus joyeux. Vous êtes venu pour affaire, je crois. » « Oui. » Elle lui dit, « Non, c'est pour quelque chose de plus important. » Il est surpris. Elle continue, « Vous avez tué la fille qui devait donner la descendance à notre maître. Et c'est très grave, vous savez. » Il ne comprend pas, lui dit, « Je ne comprends pas. » Et lui dit, « Vous savez, la petite Brigitte, celle qui a été assassinée, eh bien, elle était à nous, et vous l'avez tuée. » Ce beau lui dit, « Ce n'est pas moi, c'est ma femme. Elle était folle. Moi, je ne voulais pas, je lui avais bien dit. » Oui, mais vous êtes son mari, et vous êtes responsable de ce qu'elle faisait. » Je lui ai dit de ne pas toucher à Cliff. Je ne savais pas qu'elle allait toucher à sa fiancée. » La vieille femme lui dit, « La chose a été faite. Ça ne sert à rien de discuter là-dessus. Le temps presse. Il est bientôt minuit, déjà. » Elle se lève et lui dit, « Veuillez me suivre, monsieur. » Lève. Et ils sortent de la pièce. Il la suit. Elle marche lentement avec sa canne. Suivent un long couloir et descendent les escaliers. Arrivé au rez-de-chaussée, lui dit, « Eh bien, au revoir, madame. » Elle lui dit, « La sortie n'est pas ici. Veuillez me suivre, monsieur. » Il la suit. Elle ouvre une porte derrière les escaliers. Et éclaire. Le fait passer. Il y a des escaliers qui descendent. Il est surpris. Elle lui dit, oui. Vous savez, les vieilles maisons ont des secrets. Elle le mène. En bas des escaliers, il y a un couloir. C'est très sombre. Elle lui dit, après avoir ouvert une porte, entrez, c'est ici la sortie. Il entre. Elle a fermé la porte derrière lui. Il fait noir. La lumière s'éclaire. Il se trouve au milieu d'hommes forts, habillés d'une robe rouge qui lui semble tachée. Beaulieu est surpris, tourne la tête et voit que la porte est fermée. La vieille l'a fermée. Il demande, qu'est-ce que c'est? On le cogne. Les mains s'agrippent. Il ne peut se défendre. Mais que se passe-t-il? Lâchez-moi toutes ces mains. On lui arrache des vêtements. Ils sont comme des abeilles. Il a l'impression que ce sont des abeilles qui l'attaquent. Ça fait le même effet. nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.